Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Un petit peu plus d'un an après le lancement d'Herschel, les résultats scientifiques tombent, comme on dit, sont publiés et nous dévoilent de belles surprises. Nous allons évidemment en parler dans cette émission en compagnie de Annie Zavagno. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, vous êtes maître de conférence, enseignant-chercheur comme on dit, au laboratoire d'astrophysique de Marseille et vous vous êtes intéressé donc à travers cet outil formidable qu'est Herschel aux étoiles supermassives et massives. D'abord, comment est-ce qu'on utilise un satellite quand on est chercheur? On fait une demande?
Alors voilà, ça se passe comme pour les observatoires au sol en fait, c'est-à-dire qu'on fait des propositions et ces propositions sont évaluées par des pairs qui attribuent ou non sur la qualité de la proposition du temps de télescope, du temps d'observation. Donc le principe est exactement le même et il s'avère que le satellite Herschel fonctionne comme un observatoire au sol. Donc c'était sur appel et avec une compétition.
Alors cette compétition, vous l'avez gagnée puisque oui. Vous avez effectivement eu du temps d'observation.
Oui.
Ce temps d'observation, il occupe votre laboratoire. C'est combien de personnes aujourd'hui?
Alors actuellement dans l'équipe, on a 8 personnes qui travaillent sur l'exploitation des données Herschel. Mmh. Pour la partie sur la formation stellaire galactique, mais il y a d'autres thématiques dans le laboratoire comme l'extragalactique, donc les galaxies plutôt proches, ou la cosmologie. Donc là, il y a d'autres chercheurs, alors je dirais un groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur des thématiques qui sont autres que la formation stellaire galactique.
Alors, première publication, première expression, si je puis dire, publique des résultats d'Herschel concernant les étoiles massives. Alors, nous l'avons écrit dans Ciel et Espace, jamais les étoiles massives n'avaient été vues si jeunes et vous avez présenté des résultats concernant l'observation d'astres qui ont aux alentours de 10 000 ans, ce qui est extrêmement jeune, d'astres qui sont aussi très massifs et qui sont enfouis dans des cocons de poussière. Alors, première question, où se situe l'observation? Est-ce loin de la Terre? Et pourquoi avoir visé cette zone?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'intéresse aux étoiles massives. Il faut peut-être un tout petit peu expliquer pourquoi. Parce que ces étoiles massives contrôlent, en fait, dans les galaxies et aussi dans notre galaxie, l'évolution. L'évolution en termes chimiques, puisque ce sont les étoiles massives qui synthétisent les éléments lourds, et également en termes dynamiques, puisque à la fin de leur vie, les étoiles massives explosent en supernova. Donc elles ont vraiment un rôle prépondérant dans les galaxies. Par contre, très, très étrangement, on ne comprend pas encore très bien comment ces étoiles se forment. On a une bonne image théorique de la formation des étoiles peu massives. Donc, quand on parle de massive ou peu massive, on situe la frontière à peu près à 8 fois la masse du Soleil. Donc, une étoile massive, c'est une étoile qui va faire au-delà de 8 fois la masse du Soleil.
Elles ne sont pas nombreuses, quand même.
Alors, ces étoiles ne sont pas très nombreuses dans la galaxie, et c'est ce qui rend aussi leur étude complexe, parce qu'elles sont rares. Donc, elles sont très importantes, mais elles sont très rares. Elles évoluent très vite. Donc, au début de leur formation, les choses vont quand même relativement vite. Donc, il était très difficile, avant Herschel, de répertorier ces étoiles et surtout d'être capable de les observer au tout début de leur formation, parce qu'il fallait vraiment avoir la possibilité d'avoir accès à l'univers froid. Et l'univers froid, c'est ce que nous permet d'étudier Herschel. Donc Herschel était le bon instrument, la bonne mission pour ce genre d'études.
Pour rester sur la définition de l'étoile massive, il y en a autour de nous, dans notre environnement stellaire proche?
Les étoiles massives que l'on connaît bien, ce sont par exemple la nébuleuse d'Orion. Donc là, on a des étoiles massives. On a des étoiles massives aussi en formation vers cette nébuleuse. Donc ça, c'est très proche de nous. Par contre, des étoiles massives, il y en a dans la galaxie. Donc on compte à peu près pour une étoile qui fait plus de 8 fois la masse du Soleil, on a à peu près 2 étoiles massives pour 1000 étoiles de plus faible masse.
2 pour 1000.
Voilà, 2 pour 1000. Donc c'est vraiment une proportion très faible. Par contre, comme je disais tout à l'heure, elles sont vraiment prépondérantes. Donc même si elles ne sont pas nombreuses, ce sont ces étoiles-là qui vont vraiment réguler l'évolution des galaxies.
Prépondérantes parce que ce sont elles qui, lorsqu'elles explosent en supernova, enrichissent...
Sur l'aspect dynamique, donc l'explosion en supernova permet à ces étoiles de rejeter les éléments lourds qu'elles ont synthétisés, comme le fer, par exemple, qui ne peut pas être créé ailleurs que dans le cœur des étoiles massives. Donc c'est vraiment très important de comprendre, parce qu'elles ont cet impact fondamental sur l'évolution des galaxies, c'est vraiment très important de comprendre comment elles se forment. Et c'était un peu notre but au moment où Herschel a été lancé.
Alors, comment elles se forment ? Mais aussi, elles ont une durée de vie assez limitée.
Oui, alors ce sont des étoiles, elles vivent un peu, de façon... très, très rapide, un peu explosive, c'est-à-dire que les étoiles massives ont une durée de vie qui est quand même relativement courte. Au tout début de leur formation, les choses aussi se passent très vite. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir on pourrait parler un peu de personnes exceptionnelles si on devait... Donc il n'y en a pas beaucoup, mais alors par contre l'impact est terrible. Donc on cherche vraiment à essayer de les chasser et de comprendre, enfin on veut vraiment comprendre comment elles se forment et quelle est la particularité de leur formation.
Alors quelle est la technique pour les débusquer au berceau, enfin vraiment au berceau, puisque là ce sont pratiquement, je dirais, si on regarde la durée de vie d'une étoile, même si elle est rapide, hein, c'est quelques centaines de millions d'années pour ces grosses étoiles, 10 000 ans c'est rien. Donc comment avez-vous fait pour en dénicher une, est-ce par hasard?
Alors non, les choses ne sont pas par hasard. L'idée, c'était de dire que bon, dans la galaxie, on savait que ces étoiles se forment, ça on est sûr de ça. On sait que ces étoiles se forment dans des nuages moléculaires, donc dans des condensations, dans des cœurs, ce que l'on appelle des cœurs préstellaires. Donc on a des nuages moléculaires qui sont constitués de gaz et de poussière dans la galaxie. Et dans ces nuages moléculaires, on a des condensations qui vont s'effondrer et former des étoiles. Donc ça, c'est vrai pour les étoiles de faible masse, c'est vrai également pour les étoiles de forte masse. Simplement, comme ces étoiles massives sont très rares, on ne pouvait pas partir à la chasse de façon complètement aveugle, puisque il aurait été très difficile de les trouver. Donc on a essayé de comprendre comment on pouvait les trouver dans des lieux privilégiés de leur formation. Donc l'idée, c'est qu'il y a quelques années, donc ça remonte à 1977, il y a deux chercheurs, donc Bruce Helmgreen et Charlie Lada, qui avaient proposé un modèle en disant que quand on forme une étoile massive, cette étoile va avoir tendance à générer une nouvelle vague de formation d'étoiles, et que dans cette nouvelle vague, on aura également des étoiles massives. Alors l'idée de ce modèle, c'était de dire que les étoiles massives ont un rayonnement ultraviolet qui est très puissant, puisque ce sont des étoiles très chaudes, et ce rayonnement ultraviolet a la capacité d'ioniser l'hydrogène, c'est-à-dire d'arracher l'électron au proton de l'atome d'hydrogène, et de créer un plasma en fait qui entoure les étoiles massives, qui va être un plasma très chaud, et ce plasma va être en expansion dans le milieu où l'étoile massive se forme.
Comme une onde de choc.
Voilà. Alors, cette expansion va effectivement se faire de façon supersonique, c'est-à-dire la vitesse du son dans ce gaz va être dépassée. Donc, l'expansion va se faire en avant avec une onde de choc. Et juste à l'arrière de cette onde de choc, on va avoir ce qu'on appelle le front d'ionisation, c'est-à-dire la zone qui définit la limite entre la partie neutre, l'hydrogène neutre, et la partie de l'hydrogène qui va être ionisée par le flux de l'étoile, justement. Donc, entre cette zone, enfin ce front de choc et ce front d'ionisation, ces deux chercheurs avaient proposé qu'on allait accumuler une couche de matière, en fait. C'est ce principe comme si on balayait de la matière. Donc, il y a l'onde de choc qui se propage, le front d'ionisation qui vient juste derrière, et on va accumuler de la matière dans cette couche. Et cette couche, en fait, au bout d'un moment, donc, bon, ça prend à peu près... selon les caractéristiques physiques de la couche, ça peut prendre de l'ordre d'un million d'années, cette couche va s'effondrer sous son propre poids. Donc, on va créer dans cette couche des condensations. Et cette couche a la particularité d'être quand même un milieu qui est relativement chaud. Bon, c'est pas aussi chaud que la région H2, mais c'est quand même des couches qui sont à des températures entre 100 et 300 K à peu près. Donc cette matière très chaude va avoir tendance à générer des condensations qui vont être plutôt massives de par la température de cette matière. Et ces condensations massives vont être en fait des berceaux pour les nouvelles étoiles.
Donc accumulation,
effondrement. Voilà, le modèle s'appelait de façon, enfin originellement, collect et collapse en anglais, donc accumulation et effondrement de cette couche pour créer des condensations qui vont être des sites potentiels de formation d'étoiles massives.
C'est le principe du feu de broussailles, hein, pour la Marseillaise.
Voilà.
ça s'allume dans un endroit et paf.
Voilà, et ça se propage. Donc en fait, on a commencé à regarder, enfin à s'intéresser dans l'équipe, là, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, on a commencé à s'intéresser à ce phénomène parce qu'on s'est aperçu, quand on regardait des régions H2 galactiques, on observait assez souvent des étoiles qui avaient l'air de s'être formées sur le bord, et qui avait l'air relativement jeune. Donc on s'est dit, bah tiens, il y a ce modèle, il y a ces étoiles, est-ce qu'il y a vraiment une relation ? Alors, il y a toujours le problème en astronomie de regarder des choses à deux dimensions, mais d'être dans un espace à trois dimensions. Donc on pouvait très bien, par pure coïncidence, se trouver sur la ligne de visée, avoir des étoiles qui sont jeunes sur la ligne de visée, mais pas forcément associées à cette couche de matière accumulée. Donc on a commencé à étudier ce phénomène dans les années, je dirais, 2003-2004, mais avec les moyens que nous avions à l'époque, c'est-à-dire bon, bah, il y avait IRAS, il y avait le satellite infrarouge MSX, il y a eu ensuite Spitzer à partir de 2003, qui nous a apporté aussi de très beaux résultats. Donc on a commencé à s'intéresser un peu à ce modèle, et il s'est avéré que ça a été un peu le jackpot quand même, parce qu'on a trouvé beaucoup d'étoiles massives en bordure de région H2, et on a trouvé surtout, bon, on a trouvé des étoiles massives qui, elles, étaient déjà formées. Donc ça, c'était pas vraiment ce qui nous intéressait, parce que c'était déjà un peu trop tard. Bon, on voyait que le modèle fonctionnait, donc on était assez contents. Mais ce que l'on aurait vraiment aimé, c'était trouver des étoiles massives au tout début de leur formation. Donc on s'est dit, on va quand même un peu aller voir ces régions de plus près. Et bon, Herschel se profilait déjà dans le paysage. Donc on s'est dit, avec Herschel, ce sera très bien, puisqu'on va sonder cet univers froid. Donc si on arrive à voir des condensations en bordure de ces régions H2, mais dans lesquelles il n'y a pas encore vraiment de source infrarouge identifiée, on peut peut-être essayer d'attraper, et c'est ce que l'on a fait en fait. On a proposé un programme d'observation en disant, voilà, on connaît certaines de ces régions, on sait qu'il y a des condensations dans ces régions qui sont des condensations très froides, donc ça on avait pu l'observer à partir du sol dans le domaine millimétrique, qui est un domaine où les poussières froides rayonnent, donc on savait qu'il y avait des condensations, mais quand on regardait dans l'infrarouge, au moins avec Spitzer, on voyait qu'il y avait certaines condensations au pic desquelles on ne voyait pas de sources infrarouges, donc ça voulait dire qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose, mais que ce qui se passait était encore trop jeune pour que ce soit détecté vraiment par le satellite Spitzer. Donc Herschel nous a permis en fait d'aller voir ces condensations et puis de regarder en leur cœur, et c'est là qu'on a trouvé des objets qu'on n'avait pas vus avant, effectivement.
Alors, la publication que vous avez co-signée hein, avec toute l'équipe concernant la première observation, je dirais, d'un objet extrêmement jeune, concerne une région de formation d'étoiles avec un nom un peu ésotérique, hein, RCW-120. Donc, c'est où, ça ?
Alors, RCW-120, c'est pas très loin du centre galactique, mais c'est situé à 4300 années-lumière de nous.
C'est près.
Donc c'est considéré comme près pour une étoile massive, puisque les étoiles massives sont en général quand même assez distantes dans la galaxie. Et c'était une région que nous avions déjà étudiée, donc depuis que l'on conduit un peu cette investigation, que nous avions déjà étudiée dans différents traceurs, en particulier avec justement le continu millimétrique pour observer les poussières froides. Et on avait vu des condensations, et en particulier une condensation qui semblait très massive. On avait détecté jusqu'à 2000 masses solaires de gaz et de poussière dans cette condensation. Par contre, on n'avait rien vu au cœur. Le satellite Spitzer, jusqu'à 70 microns, ne montrait pas d'objet évident. Et là, avec Herschel, on a eu la belle surprise de voir une source qui apparaît à 100 microns, donc qui est très froide, qui est une source que l'on a pu caractériser grâce à des modèles, en fait, des modèles astrophysiques d'objets jeunes. Donc maintenant qu'Herschel nous donne tous les flux de cette source à différentes longueurs d'onde, en particulier dans le domaine infrarouge lointain, on peut vraiment caractériser ses propriétés physiques, ce qui n'était pas possible avant, même avec Spitzer. Et donc, on arrive avec les modèles à savoir quelle est la masse de cette source, quel est son âge, quelles sont ses caractéristiques. Et c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire.
Alors, à quoi ressemble cet objet très jeune, si vous deviez le décrire? Vous dites 7-8 masses solaires. D'abord, comment le pèse-t-on hein?
Alors, donc ça, c'est un résultat qui sort des modèles. C'est-à-dire que la façon dont la source rayonne aux différentes longueurs d'onde que l'on a observées avec Herschel. Donc avec Herschel, on a observé cette source entre 100 microns et 500 microns, donc avec les instruments PAX et SPIRE. Et nous avions également une détection du cœur de la condensation dans le domaine millimétrique. Donc on avait tout ce que l'on appelle la distribution spectrale d'énergie pour cette source sur un grand domaine, donc ce qui nous permet vraiment de contraindre les modèles. Et donc les modèles nous retournent, nous disent, bon, pour une source qui rayonne avec tel flux à telle longueur d'onde,
c'est
on sait,
masse.
Voilà, c'est telle masse, et c'est telle température, et c'est tel âge, etc. etc.
Et
voilà.
C'est tel âge, ça vous donne aussi l'âge.
Alors, ça nous donne une contrainte sur l'âge qui est, dans le cas de cette source, on a établi, enfin, estimé un âge à 10 puissance 4 ans, donc 10 000 ans à peu près, et ces 10 000 ans sont corroborés aussi par un autre critère, que l'on appelle, alors ça c'est un critère qui avait, défini par Philippe André, donc c'est un critère pour définir ce que l'on appelle les classes zéro. Donc les sources de classe zéro, ce sont des étoiles justement jeunes, au tout début vraiment de leur formation, et donc ce critère de classe zéro est rempli. Donc en fait ce critère de classe zéro nous dit qu'il faut faire le rapport du flux qui est émis aux grandes longueurs d'onde par rapport au flux total de la source, et pour cette source-là, on est en plein dans l'existence d'une classe zéro, donc d'un objet très jeune.
Et est-ce que c'est un objet qui peut encore continuer à grossir, ou est-ce qu'il est entre guillemets fini?
Alors, a priori, il est entouré d'une condensation de matière qui, on l'a déterminé, fait au moins 2000 masses solaires. Donc, a priori, comme il est très jeune et qu'il y a encore de la matière autour, il doit être encore capable d'accréter. Alors, ce que l'on ne sait pas, par contre, parce que Herschel, bien sûr, a ses limitations, c'est-à-dire qu'Herschel, c'est un instrument formidable, justement, pour détecter ces objets et caractériser leurs propriétés physiques, mais Herschel, malheureusement, ne nous permet pas, grâce ou à cause, je dirais, de sa résolution spatiale, d'aller vraiment sonder le cœur de ces objets-là. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on l'a détecté, on l'a caractérisé sur le plan physique, et maintenant, ce que l'on va aller faire, c'est de la haute résolution angulaire. Donc, il existe des interféromètres au sol, comme par exemple l'interféromètre australien ATCA, qui nous permet de faire vraiment de la haute résolution angulaire dans le domaine millimétrique et centimétrique. Donc là, on va vraiment aller sonder le cœur de cette source, voir si on a encore de l'accrétion de matière ou si cette accrétion est plutôt en train de diminuer. Donc on va vraiment pouvoir aller sonder le cœur.
De par ces mouvements?
Alors, ça peut se faire par des études dynamiques, effectivement, avec les profils de raies. Donc, on va observer des raies moléculaires. Donc, on peut, grâce au profil, savoir si on a ce qu'on appelle de l'infall, c'est-à-dire de l'effondrement de matière sur le cœur de cette source. Ou alors, ça peut se faire aussi avec d'autres traceurs ou d'autres indicateurs chimiques, en particulier, qui, eux, sont de très bonnes horloges de l'évolution de ces étoiles très jeunes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'Herschel peut faire, parce que à bord du satellite Herschel, il y a un spectrographe à très haute résolution spectrale, qui est le spectrographe HiFi, qui permet lui aussi de faire vraiment là de la haute résolution spectrale, donc sur des raies moléculaires, et c'est très très utilisé par les gens qui font justement des traceurs, des dateurs de formation stellaire. Donc il y a plusieurs programmes sur Herschel qui justement utilisent la chimie comme... justement, principe de datation pour tracer l'évolution des étoiles très jeunes.
Alors, vous nous parlez d'un environnement composé d'à peu près 2000 masses solaires, dites-vous. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres, je dirais, frères ou sœurs de cette étoile,
alors,
cachées, proches?
Oui, alors on sait qu'il y a des frères et sœurs, puisqu'on les a vus. Alors, par contre, les frères et sœurs sont un peu plus âgés et ils sont un peu moins massifs. Donc on a une famille, en fait, enfin on n'a pas vu les parents, mais on a vu au moins les enfants. Donc on a une famille et on sait qu'on a des étoiles dans l'entourage qui sont des étoiles jeunes, de plus faible masse, qui sont également formées dans cette condensation. Et on les a vus, en fait, cette fois grâce au satellite Spitzer, parce que ce sont des objets qui sont déjà un peu plus évolués, donc qui ont pu être détectés aux longueurs d'onde plus courtes, puisqu'ils sont déjà un peu plus chauds, donc ils rayonnent à des longueurs d'onde plus courtes.
Donc vraiment une zone de formation. Comment ça se passe, la naissance entre guillemets d'une étoile? Parce qu'on a l'impression que c'est pas fini tel que vous nous le décrivez. C'est hors l'esprit général pour l'idée générale pour une création d'étoile. Ça s'allume et puis voilà, c'est terminé. C'est à un moment donné, paf, les températures au centre de l'étoile atteignent une telle hauteur que elle s'allume et puis l'étoile est constituée. Or ça ne semble pas être le cas.
Alors c'est justement l'un des problèmes liés à la formation des étoiles massives, c'est que les étoiles massives, en fait, donc, bon, le schéma classique qui est adopté pour la formation des étoiles peu massives est de dire qu'on a effondrement d'une condensation moléculaire, donc on a effondrement de l'extérieur vers le cœur, on crée un cœur très dense dans cette condensation, et sur ce cœur, la matière va s'accréter. Donc ça, c'est le schéma classique qui est disons, adoptée pour la formation des étoiles de faible masse. Lorsqu'on a des étoiles massives, il y a une petite complication, c'est-à-dire qu'au départ, on peut former selon le même principe, mais les étoiles massives ont ce phénomène de température, ce sont des étoiles chaudes, qui sont plus chaudes que les étoiles de faible masse, et qui vont, au bout d'un moment, alors qu'elles sont encore en train d'accréter, commencer en fait à rayonner et à avoir un fort flux de rayonnement ultraviolet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les étoiles massives. Et ce problème, enfin cette caractéristique des étoiles massives pose un problème pour leur formation justement parce que ce rayonnement va agir en fait comme une sorte de parapluie. C'est-à-dire que l'étoile est en train de se former et on sait que le déclenchement de ce rayonnement ultraviolet se produit à peu près à cette limite, aux environs de 8 masses solaires. Donc quand l'étoile qui est en formation atteint à peu près cette masse, on va avoir ce rayonnement ultraviolet qui va se mettre en marche et qui, lui, exerce sur le milieu environnant une sorte de... Enfin, c'est une pression de radiation, c'est-à-dire que ce rayonnement va commencer à être émis dans le milieu environnant et va avoir tendance à empêcher la matière de tomber sur l'étoile, c'est-à-dire à lui permettre de gagner de la masse. Donc ce phénomène-là, qui est quand même très ennuyeux, fait qu'on ne devrait pas pouvoir former des étoiles de plus de 8 fois la masse du Soleil, à peu près.
Quelle est la plus grosse étoile connue? Alors, aujourd'hui, il y a une limite?
Dans la galaxie, l'étoile, la plus grosse étoile qui est observée actuellement, fait 120 fois la masse du Soleil. Donc c'est aussi ce qui a beaucoup gêné les gens, c'est que si on n'avait pas observé d'étoiles plus massives que 8 fois la masse du Soleil, tout le monde aurait été très content. Le seul problème, c'est qu'il existe vraiment des étoiles très massives. Et donc il faut qu'on puisse former ces étoiles-là. Et c'est vraiment le problème qui actuellement occupe, enfin, les astrophysiciens qui travaillent dans ce domaine. C'est vraiment de comprendre quels sont les mécanismes physiques qui permettent à une étoile massive de se former. Donc, il y a eu différents modèles proposés. Il y a un modèle qui a été proposé par un groupe anglais, Bonnell et collaborateurs, qui est un modèle de formation par coalescence, c'est-à-dire que au lieu de réadopter ce schéma classique que l'on a pour les étoiles peu massives, qui est l'effondrement sur une condensation et puis ensuite la création de matière, on formerait en fait, on aurait des petits grumeaux d'étoiles qui seraient capables de s'agencer ou s'accumuler par coalescence. Et là, on pourrait construire comme ça une étoile plus massive. Alors, ce modèle-là a été proposé avec une base observationnelle au départ, parce qu'on avait tendance à observer les étoiles massives dans des amas très denses. Donc, même quand on observait des étoiles massives relativement jeunes, on les voyait toujours au sein d'amas quand même très denses. Et les gens disaient, regardez, c'est une preuve que ces étoiles-là doivent se former. Et puis, on a un peu fait tomber cette belle illusion parce qu'on a observé une étoile très jeune, massive, qu'on sait être massive, et qui est complètement isolée. Donc, au moins celle-ci, alors ça ne veut pas dire que les autres ne se sont pas formées par coalescence, mais au moins celle-ci s'est formée autrement. Donc,